Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 8 janvier 2020 et vous écoutez le Café de l'e-commerce. Tout d'abord, nous vous souhaitons une merveilleuse année en nous écoutant. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Bonjour Laetitia, ravi de te retrouver après ce petit break et ses vacances et ravi d'enregistrer cet épisode avec toi.
Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles.
Laetitia.
Adrien.
Prêt.
Synchronisation des montres.
Alors, on va commencer, Laetitia, avec un petit erratum qu'on avait fait, je crois, au dernier épisode, lorsque je t'avais fait faire le quiz sur l'Angleterre. On avait évoqué Mark Spencer. Et en fait, on avait expliqué que c'était pas dans le. Étonnamment, il n'était pas dans le classement. Et en fait, pour cause, parce qu'il a été. Il s'est rapproché, enfin, il a été racheté par Ocado. Et donc, c'est le groupe Ocado qui, lui, apparaît dans le classement. Donc, Mark Spencer est intégré dans Ocado qui apparaissait bien dans le quiz. Donc, voilà, petite précision.
Donc, Mark Spencer est bien l'un des grands retailers.
Exactement. Donc, encore une fois, tu avais raison. Tu as gagné le quiz. Et tu avais donné les bons noms de retailers. Deuxième peut-être information, c'est exceptionnellement, on va faire une petite, j'ai enregistré avec un ami qui était à San Francisco une petite interview de quelques minutes que je te propose d'écouter maintenant. Il était à San Francisco, je lui ai demandé d'aller regarder un petit peu les magasins Amazon Go et de nous partager ça. Donc à mon micro, il a répondu à quelques questions et il nous explique un petit peu son expérience. Si ça te va, on l'écoute tout de suite.
Allez, on écoute.
Bonjour à tous, alors je suis ravi de me retrouver avec Mr. W. Bonjour Mr. W.
Bonjour Adrien.
Alors merci beaucoup de me faire le plaisir d'être ici avec moi et avec nous. Je vais te laisser te présenter peut-être qui est-ce que tu es, parce que c'est bien mystérieux ce nom Mr. W.
Oui, j'aime bien cultiver un peu ce mystère. Bon, on se connaît depuis quelques années, moi ça fait plus d'une dizaine d'années que je travaille dans le digital et plus précisément dans l'e-commerce. Et il y a quelques semaines, lors d'un déjeuner, on discutait d'un voyage que j'étais sur le point de faire à San Francisco, au siège de la société pour laquelle je travaille. Et en discutant un peu de ce qu'on pourrait faire de sympa, ou de ce que je pourrais faire de sympa sur place, on a été amené à discuter d'Amazon et notamment d'Amazon Go.
Justement, donc tu as fait un petit peu l'espion et tu es allé à San Francisco pour regarder le magasin. Nous, on en parle depuis plusieurs épisodes. Je crois que depuis le premier épisode, on parle d'Amazon, ça c'est certain. On évoque souvent Amazon Go et je trouvais ça super enrichissant de pouvoir avoir quelqu'un qui y va, qui nous explique un petit peu comment c'est. Alors peut-être avant de nous expliquer, de nous donner ton expérience, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est qu'Amazon Go et nous donner un peu de contexte?
Alors bon, déjà, Amazon, il faut se souvenir que c'est la deuxième présence physique de l'éditeur américain dans le retail. C'est-à-dire qu'en dehors de Whole Foods qui a été racheté en juin 2017, Amazon n'a pas de présence physique en dehors d'Amazon Go, qui existe dans 4 villes uniquement, qui sont Seattle, New York, Chicago et San Francisco, pour 24 localisations. À date, avec 3 qui sont sur le point d'ouvrir en Q1 2020. C'est un mini supermarché. Pour dire clairement, un mini supermarché où vous trouverez que du prêt à manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc on trouve globalement pas de lessive, pas d'ampoule, pas de papier toilette, et simplement de quoi faire un snack sur l'un des 3 temps que je viens de citer.
Mr. W, juste avant que tu continues, donc là tu me listes les produits qui sont présents, c'est-à-dire que tu n'as pas du tout de casque, de produits électroniques, rien du tout, c'est que des choses à consommer, à manger.
Du prêt à manger.
Et ouvert, les horaires, c'est quoi? C'est 8h, 20h?
C'est de l'horaire étendu, ça commence tôt le matin, aux alentours de 6h, et ça finit vers 22h30.
D'accord, ok.
Donc, comme je le disais, la grosse particularité de cette mini supermarché prêt à manger, c'est son approche très technologique. La particularité, c'est que tout est automatisé, il n'y a pas de queue, c'est simple d'utilisation, intuitif. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'avoir une application Amazon Go.
Il n'y a pas de queue parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, ou il n'y a pas de queue parce qu'il y a un système qui fait que c'est très fluide et qu'en fait les gens y marchent et le concept de queue n'existe plus?
Alors, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas allé à ce qui aurait pu être un rush hour, à savoir l'heure de déjeuner ou l'heure tôt à laquelle tous les Américains arrivent au boulot, à savoir entre 8h moins le quart et 8h et quart, mais surtout je pense parce que c'est très fluide, c'est-à-dire que tu rentres, c'est comme une petite balade qui dure 1 à 2 minutes maximum, ce n'est pas des grosses surfaces, hein, tout au plus c'est 250-300 mètres carrés.
Ouais, c'est quoi? C'est genre un Carrefour City?
C'est ça, exactement. Okay, exactement, mais avec un seul, enfin je veux dire, pas du monoproduit, hein, mais en tout cas une monogamme de produits, du prêt-à-manger.
Et les produits, c'est est-ce qu'il y a un éclairage particulier? Est-ce que c'est mis en avant d'une certaine manière? Ou c'est
non.
Vraiment qu'un supermarché
lambda? Lambda. En dehors du fait que lorsque tu rentres, tu dois biper ton smartphone ouvert sur l'application Amazon Go pour t'enregistrer. Donc tu vas le biper autant de fois que tu as d'accompagnants avec toi. Et c'est là où la particularité technologique commence à prendre tout son sens. C'est-à-dire que, quels que soient les faits et gestes qui seront les tiens sur la surface de vente, que tu prennes un produit, que tu le remettes, tout est monitoré avec une technologie qu'ils appellent le walk-out technology, qui est une base de computer vision, sensor fusion, deep learning. Alors, tout ça, c'est plein de gros mots, mais en gros, c'est ce qu'on utilise dans les voitures autonomes.
D'accord.
C'est exactement le même principe. Et donc, on va monitorer tout ce que tu fais. Tu prends une bouteille de Coca-Cola, bam, ça rentre sur ton car virtuel.
Tu les vois, les caméras? Elles sont visibles ou elles sont masquées?
Non, c'est très... Je veux dire, okay. tout est complètement fluide.
Tu ne te sens fluide. Pas observé avec les caméras partout. Ça doit être amusant parce que, du coup, tout ce que tu fais, c'est archi-analysé, mais tu t'en rends pas compte.
Pour une première fois, c'est assez déroutant parce que tu as toujours l'habitude, bêtement, hein, tu vois quelqu'un qui est à l'entrée. Alors, tu as quand même un vigile qui est à l'entrée.
J'allais te demander, justement.
Ensuite, tu as un employé qui est sur place parce qu'en plus de servir de petite épicerie, ça va servir également de point relais pour les retours.
D'accord.
D'Amazon.
Les retours ou aussi le pick-up?
Non, les retours uniquement.
D'accord.
Et après, tu as, alors, pour avoir discuté avec cet employé, tu as deux employés qui sont en réserve et qui vont finaliser la préparation de quelques denrées alimentaires, de quelques plats prêts à manger, réapprovisionner les stocks et tourner. Donc, tout au plus, tu vas avoir entre 4 et 6 employés sur une surface d'Amazon Go lambda.
Tu viens de parler de plusieurs choses. Est-ce qu'il est possible d'acheter, de préparer sa commande? C'est-à-dire, je sais que je vais passer à midi pour récupérer mon sandwich, ma boisson, et c'est prêt pour moi ou non?
Non. Pas, en tout cas, pas à ma connaissance, c'est pas ce que j'ai testé.
Okay.
Et pour être honnête, c'est tellement fluide hein, en termes d'utilisation que le but de réduire en même temps le nombre d'employés ne va pas dans ce sens-là.
Et donc, tu parlais, tu es allé rapidement dessus, mais il faut télécharger une application particulière.
Il faut avoir un compte.
L'app Amazon.
Non, il faut avoir un compte, une application Amazon Go.
Donc, c'est une application spécifique.
Exactement,
Amazon Go.
Ouais.
Et en quoi elle est différente de l'Amazon Shopping qu'on connaît?
Alors, techniquement, je ne pourrais pas te répondre. En revanche, bon, tu as ton panier virtuel, ton QR code et tu peux suivre en temps réel tout ce qui va être mis sur ton panier virtuel et tout ce qui va en sortir.
Quand tu entres dans le magasin, tu prends un petit panier, un vrai panier physique ou non?
Tu peux ou pas.
Ok, et il détecte quand même si tu ne le mets pas dans ce panier, tu le prends dans les mains et directement dans son téléphone, tu as une petite alerte qui a vu que tu l'as pris?
Non, tu n'as pas d'alerte. Tu as des alertes pour les produits. En fait, en quasi temps réel, tu vas avoir des alertes sur ce qui rentre sur ton panier virtuel et ce qui en sort. J'ai fait une quinzaine de manipulations hein, pour voir. Je me suis rapproché de personne pour voir si on allait télescoper ou pas. Ça fonctionne vraiment. C'est au cordeau.
Mais donc, tu l'as téléchargé. Tu t'es identifié dans l'application. Tu entres dans le magasin. Il faut le scanner quelque part.
Tu scannes à l'entrée.
Et ton visage, il le scanne aussi?
Non. Simplement l'application. Et tu scannes autant de fois que tu as de personnes qui vont t'accompagner et pour lesquelles tu vas régler les achats. Et puis une fois que tu es prêt, bah tu te contentes de repasser les tourniquets dans le sens inverse.
Et si tu as oublié un truc, tu peux retourner à l'intérieur avec les produits que tu as dans la main et en prendre de nouveaux.
Exactement.
Ouais.
Tu repasseras par la case « Je scanne mon application,
ah oui,
petit tourniquet » et donc tu recommenceras une expérience d'achat.
Tu achètes une canette, tu sors, tu dis oh « bah finalement, j'en veux pas », tu peux retourner à l'intérieur, la reposer ou non? Là, du coup, il faut…
Ah, ça, c'est une bonne question parce que je n'ai pas testé cette partie-là. Ça aurait été intéressant.
Je t'avais demandé de faire plein de calculs.
Oui, oui, oui.
Mais je t'avais même demandé de voler. Mais après, tu m'as dit « Adrien, c'est peut-être dangereux de faire ça ». Non, blague à part, par contre, tu as essayé beaucoup, peut-être pas en cachant en caméra, mais de poser, redéposer, essayer de masquer un peu le truc. Et tu m'as dit qu'avec le même produit, tu l'avais fait plusieurs fois. Et au final, on a regardé sur la facture.
Tu
m'avais envoyé.
J'ai pris une quinzaine de produits à différents moments. J'ai reposé à différents moments.
Mais au même endroit, tu les as reposés?
Pas toujours, pour
okay,
voir
super.
Un peu si ça a détecté.
Des filous, ouais.
Et non, ça a été très, très précis.
Il n'y a eu aucune erreur.
Aucune erreur.
Okay,
aucune
super.
Erreur, très rapide. Grosso modo, mon expérience d'achat, en voulant prendre le temps, a pris à peine 8 minutes. Hein.
Ouais, alors que, et si tu sais ce que tu veux, parce que tous les jours tu vas là-bas, ça peut être peut-être moins d'une minute, c'est ça? Jusqu'à
tu
prends,
c'est à peine une trentaine de secondes.
Même 30 secondes même,
c'est ça.
Ouais. Il y avait combien de personnes, par curiosité, qui étaient à quelle heure et quel jour?
Alors, j'y étais en fin de journée, au moment où tout le monde sort du boulot à San Francisco, entre 5h30 et 6h, dans le centre financier. On était tout au plus une douzaine au même moment dans le shop.
Le seul moment où il y a une queue, c'est peut-être quand tu scannes à l'entrée, non? C'est le seul point bottleneck ou non?
Et encore, peut-être qu'il y a eu de la queue à l'ouverture de ces Amazon Go parce que ça a suscité un peu de curiosité. Mais aujourd'hui, en fait, l'usage est tellement fluide qu'à moins d'avoir 200 personnes sur la surface dont je te parle, hein, que j'ai visité, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait de la queue.
Tu as discuté un petit peu avec la fille qui
avec passait. Un des employés, oui, celui qui prenait les colis, mais pour comprendre déjà ce qu'il faisait, parce que je voyais des gens venir déposer des colis et c'est là il m'a expliqué que y a un employé, un vigile à l'entrée, une personne sur la surface de vente, il peut y avoir éventuellement une deuxième lorsque celle-ci est un peu plus importante, et en back-office tu as deux personnes.
Possible de payer par cash?
Tu peux payer par cash, oui.
Et comment ça se passe dans ce cas-là?
Tu vas directement voir cet employé-là et qui a une caisse qui va te faire le change, encaisser, etc.
Mais tu as vu personne payer
non.
en cash?
Ah, non, non.
Et tu as vu des gens qui le faisaient? Ils avaient l'air de connaître et de le faire, d'y aller régulièrement?
Ah oui, hein, t'as l'impression d'être dans un hall de gare.
Voilà, c'est ça. Les gens, ils font le truc, personne ne se regarde, on fait le truc, on sort.
Ce qui est un peu le cas dans le centre-ville de San Francisco. Hein. Les gens ne se regardent pas, ils sont un peu avec leurs écouteurs, leurs AirPods, mais voilà, c'était dans la continuité.
Les produits qui sont choisis, c'est tous des produits de marque? Ou c'est des produits, tu connaissais pas trop la marque, ou comment ils les choisissent?
Non, alors dans le snack, tu vas avoir beaucoup de best-sellers. Alors le biais, c'était un peu de bio, un peu de local. C'est aussi un peu le parti pris hein, qu'ils mettent en avant. Et le reste, c'était du produit préparé. Donc c'est quasiment à 40-50% de produits préparés par Amazon, alors soit sur place, soit dans une autre centrale qui livre ensuite les Amazon Go de San Francisco. Il n'y en a pas beaucoup à San Francisco, il n'y en a que 4. Hein. La ville où il y en a le plus, c'est New York avec 8 et ensuite Chicago avec 7.
Au final, tu as trouvé que c'était une expérience qui était positive? Tu aimerais bien le voir à Paris ou non, tu as des réserves?
Bon, disons que c'est... Ouais, ma curiosité était un peu titillée. J'aime bien l'interaction humaine.
Je te coupe, Mr. W, parce que tu n'es pas un fan d'Amazon. Enfin, tu n'achètes pas régulièrement sur Amazon.
Non, pas du tout.
Tu es allé là-bas parce que je te l'ai demandé.
Exactement.
Sinon, tu ne serais pas allé. Et donc, ton avis, il est assez... tu n'es pas pro-Amazon plus que ça et tu n'es pas fanboy.
Non, okay. Pas du tout. Alors, c'est vrai que sur une... L'intérêt, c'est vrai... Alors, Amazon l'a fait pour une simple et bonne raison, hein. C'est fluidifier une expérience utilisateur de la même manière qu'ils le font sur le web. Là, ils le font dans le monde réel. C'est assez bluffant. Quand on n'a pas le temps, qu'on ne veut pas réfléchir et qu'entre deux réunions, on veut descendre prendre quelque chose ou le midi, on n'a pas on est pressé, c'est clair que c'est assez pratique. Et c'est ce que recherche Amazon. Le côté pratique, ne réfléchissez pas, c'est simple. L'usage est facile et intuitif. Ça c'est assez drôle. Après, bon, vous me direz, est-ce qu'on discute beaucoup dans une mini supérette ou lorsqu'on va chez un petit traiteur pour prendre du prêt-à-manger le midi lorsqu'on est pressé? Pas tant que ça. Bon, c'est vrai que ça manquait à mon goût un peu d'interaction humaine.
Et il y avait que de la nourriture. Encore une fois, dentifrice, brosse à dents, il y a
rien.
Pas... Ok, ça sera adapté parce que tu peux te dire à 20h, t'en as besoin, tu vas aller descendre rapidement prendre quelque chose. De l'alcool, il y en a ou pas?
Non. Il n'y avait pas d'alcool. Non, c'est vraiment...
Pas de bière ?
Non, pas de bière. Okay. C'était vraiment le... non, l'idée, c'est le snack rapide pour quelqu'un qui n'a pas le temps de se faire à manger, qui n'a pas le temps qui n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner, qui veut les quelques ingrédients essentiels pour se faire un dîner, mais sans partir de la base, des épices et compagnie. C'est vraiment du simple et rapide.
Ok, super. Autre chose, Mr. W?
Bah écoute, merci, parce que je pense que j'y serais pas allé si tu me l'avais pas demandé. Et finalement, c'était assez rigolo.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup pour ce retour d'expérience et au plaisir de rediscuter ensemble dans un prochain épisode.
Avec plaisir, à bientôt.
Et donc, maintenant, Laetitia, je te propose de basculer directement vers la section news.
Ben, je suis pas d'accord.
Non. On fait quoi là?
Allez, on y va, balance ta news.
Alors, news que j'ai retenu, c'est dans la food tech, Carrefour qui rachète un acteur de l'e-commerce. Est-ce que tu connaissais Dashbox?
Non, je ne connaissais pas.
Alors, Dashbox, ce qu'il propose, c'est de faire de la livraison de repas pour les sociétés. Et à l'inverse d'un Deliveroo ou Uber Eats que tu connais, ici, ils emploient, il n'y a pas de livreurs tiers, ils emploient toutes les personnes, tous les préparateurs livreurs sont des salariés de la société. Donc, il y en a 140. Ils sont présents dans l'île. Dans plusieurs villes de France, Lille, Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes et Grenoble. Ils sont 300 personnes et ils ont été rachetés donc, par Carrefour pour accélérer dans ce secteur de la food tech. Et on se souvient également que Carrefour avait racheté en 2018 une start-up, tu te souviens du nom ?
Kitok.
Exactement, Kitok, qui a été créée en 2014 et qui permet toujours de faire de la livraison à domicile de paniers repas à cuisiner.
Tu connais le montant, Adrien ?
Non, il n'a pas été
dévoilé. Été communiqué. On passe tout de suite à la rubrique Amazon. Et je prends la parole en évoquant Amazon qui envisage d'ouvrir des boutiques en Allemagne. Donc la news est tombée en début de semaine. Donc après les États-Unis et je crois, mais à vérifier, Adrien est en train de vérifier l'Angleterre, c'est l'Allemagne qui déciderait d'ouvrir des magasins physiques Amazon. Donc c'est le patron d'Amazon Allemagne qui a évoqué cette possibilité, tout en précisant que l'Allemagne est le second marché après les US. Alors ça m'a paru un peu étrange parce que Amazon en Allemagne est présent depuis pas très longtemps, 5-6 ans. Et c'est déjà le second marché après les US. Je ne suis pas certaine, je revérifierai. Et actuellement, il y a plus de 500 magasins Amazon Whole Foods qui sont répartis sur les US, le UK, une dizaine de boutiques Amazon Go et des dizaines de librairies Amazon Books.
Amazon dépose une demande de brevet pour un dispositif de paiement par reconnaissance de la main. Tu en avais parlé il y a quelques numéros, c'était à l'état de rumeur. Et aujourd'hui, donc plus qu'une rumeur, c'est un brevet complet qui a été déposé. Donc les paris se font que ça serait peut-être disponible dans les magasins Amazon Go aux États-Unis. Il y en a 24 aujourd'hui. Et à terme, on pourrait donc payer simplement en présentant sa main.
Et toujours dans le paiement, alors Alexa et ExxonMobil testent le paiement vocal de carburant dans 11 500 stations.
Et enfin, dernière news Amazon, c'est Amazon qui fait un partenariat avec le deuxième plus gros retailer en Inde. C'est un marché qu'on n'évoque pas beaucoup. Alors on a l'idée que c'est un gros marché. Donc là, c'est amusant de voir que Amazon donc, fait ce partenariat. Cet acteur en Inde s'appelle Future Retail. Je ne connaissais pas du tout. Je suis allé regarder un peu ce qu'ils font sur leur site et sur Wikipédia. Ils ont énormément de c'est déjà un grand groupe avec 70 000 personnes. Ils ont surtout des supermarchés, mais ils ont également des marques en propre. Et ils vendent dans plus de 1500 magasins partout en Inde. Donc ce partenariat, ça va aider à Future Retail, au travers de ces marques qui ne sont pas très présentes sur Internet, de vendre au travers d'Amazon. Et Amazon, in fine, va pouvoir également utiliser le réseau de distribution pour peut-être proposer des produits directement en magasin ou utiliser également ce qu'ils avaient évoqué, c'est utiliser toute la logistique et la supply chain de Future Retail.
Et on passe aux news simples et funky. Alibaba veut permettre à ses 693 millions d'utilisateurs de devenir dropshippers.
La solution Bluecore vient de lever 13 millions de dollars dans le secteur du CDP, le Customer Data Platform, et on en parlera dans un prochain numéro parce que c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement.
TikTok enregistre un CA en hausse de 310% sur un an. Et enfin, IKEA va tenter les livraisons en camion électrique.
Encore une fois, merci à tous pour nous écouter. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos auditeurs? Bah, s'ils nous aiment, qu'ils écoutent, qu'ils nous laissent 5 étoiles, des commentaires sur Apple Podcast. S'ils nous aiment pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils se désabonnent.
Ils se désabonnent et puis on s'en fout. Hein, voilà.
qui
nous écoute pas.
Pour le moment, on n'en a pas beaucoup reçu des retours négatifs. Mais voilà, écoutez si ça vous fait plaisir. Picorez les épisodes si ça vous plaît. Écoutez-les tous si ça vous le.
Écoutez-les en accélération rapide.
En accéléré. Pourquoi si vous accélérez avec ma voix. Donc merci encore de votre soutien.
Et je rappelle que nous sommes un podcast indépendant et que nous ne sommes affiliés à aucune société privée.
Laetitia, avant de te laisser la main, 2019, c'était un petit peu, on a lancé le podcast et l'e-commerce était encore une grande énigme de qu'est-ce qui allait se passer, comment est-ce qu'on allait aller, et tu voulais expliquer un peu cette deuxième partie de l'émission, ce qu'on allait faire.
Oui, alors à l'inverse de tout ce qu'on a pu lire, voir et écouter, on n'avait pas envie de faire un top de ce qu'il fallait retenir et des best solutions ou voilà, on voulait plutôt vous parler du flop, voilà, des flops 2019, ce qui a retenu notre attention d'une manière pas forcément positive ou négative, mais en tout cas, voilà, ça a retenu notre attention et on se dit, c'est un peu coincé là-dedans. Donc on a retenu trois sujets. Le premier, c'est sur GDPR, donc RGPD.
Donc ça a été le lancement, tout le monde en a beaucoup parlé. Au final, qu'est-ce qui se passe? On a une bannière sur un site, tout le monde clique oui. Quel est le réel impact que ça a? C'est juste créer de la friction en plus, une étape supplémentaire pour les consommateurs. Ça, est-ce que ça a un vrai impact pour le consommateur? Certainement, parce que ça l'ennuie et finalement, il ne lit pas pour autant ce qui se passe. Donc moi, je le mets dans la catégorie flop parce que finalement, c'est bien, ça a donné des idées. Maintenant, en Californie, ils sont en train de réfléchir à faire quelque chose autour de ça, mais la manière dont ça a été mis en place, la communication sur les sites, je pense que ça cause du tort à tous les outils de tracking, de ciblage autour de la publicité, et en même temps en expérience utilisateur, je ne suis pas du tout convaincu que
c'était... Le GDPR c'était annoncé comme une grosse tornade juridique qui allait éventuellement faire baisser le chiffre d'affaires des e-commerçants parce que voilà, ça, on envisageait ça comme un frein à l'acte d'achat, et en réalité pas du tout quoi.
Je ne sais pas s'il y a eu certainement
des pertes. Mais l'utilisateur s'y est très vite fait. Et toi-même, quand tu y vas, tu cliques, tu dis OK, quoi.
Le flop, je le vois comme comment ça a été mis en place par les marques. Est-ce que en termes d'expérience utilisateur, pas convaincu que ce soit la bonne chose, parce que finalement maintenant on clique dessus sans le lire.
On a retenu aussi l'IA dans le e-commerce.
Bah, IA, parce qu'on parle beaucoup d'IA partout. Si tu regardes n'importe quelle revue, on parle d'IA dans tous les secteurs. Dans l'e-commerce, je n'ai pas vu grand-chose. Je n'ai pas fait waouh encore l'année dernière, en 2019. Alors, encore une fois, j'attends qu'on prouve le contraire. Mais on va dire l'IA qui existe toujours dans la personnalisation. C'est le secteur dans lequel qui est le plus simple à comprendre. Peut-être dans les chatbots, très certainement. Mais je n'ai pas encore vu d'usage, que ce soit côté consommateur, de quelque chose qui irait vraiment sur le front, qui puisse apporter une grande rupture, une facilité pour le consommateur ou derrière pour les entreprises. Donc attendons de voir comment ça continue, mais en dehors du buzzword, j'ai pas encore été convaincu et j'attends d'être convaincu là-dessus.
Et enfin, le commerce vocal.
Voilà, encore une fois, je ne vais pas me faire des copains, mais bon, l'idée, c'était aussi d'être un peu provocateur. Moi, je n'y crois pas comme ça, la mère n'en sait. Donc, pareil, les assistants, ils sont partout. On va pouvoir acheter grâce à la voix. OK, on est capable de le faire. Les volumes aujourd'hui sont ridicules. Les usages, ils ne sont pas là. Donc, pour moi, c'est un gros flop. Mais on en reparlera tout à l'heure parce que c'est également dans mes tendances. Donc, c'est un flop pour 2019. Mais je suis en train de revoir ma posture là-dessus grâce à des récentes news. Donc, le flop vient du fait qu'on parlait beaucoup de vocal commerce, mais dans la réalité, ça n'existe encore pas. C'est oui, il y a beaucoup d'augmentations possibles, bah parce que ça part de tellement loin. Je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, dans la manière dont c'est fait, ça va prendre côté consommateur.
Bon, bah, transition toute trouvée pour l'année 2020. On va continuer de parler des assistants vocaux.
Oui, alors pour l'année 2020, avant de parler des assistants vocaux, l'exercice qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de trouver on s'est partagé la tâche, de trouver trois tendances qu'on voyait pour 2020. Donc la première, bah pareil, j'ai essayé de trouver des choses pas trop convenues, parce que si je vous dis on continue la croissance de l'e-commerce, ou
c'est génial, à deux chiffres,
etc., etc. Bon, ok, ça avance.
Moins de friction.
Voilà, exactement. Donc j'ai essayé de trouver des trucs qui sont un peu funky ou sont un petit peu contre-courant. Bon, il n'y a rien de foufou. Le premier, je reviens sur les assistants vocaux, parce qu'il y a quelques jours ou semaines, à peine deux semaines, les grands acteurs Amazon, Google, Apple se sont assis autour de la table et se sont dit on va se mettre d'accord sur un protocole commun pour les assistants vocaux. Donc c'est superbe parce que ça veut dire plus grande communication entre ces différents systèmes. Je ne sais pas exactement ce que ça va vouloir dire, mais le frein qui est aujourd'hui de devoir acheter tel ou tel appareil pour pouvoir utiliser tel ou tel service, peut-être qu'il pourrait être levé. Ça veut dire, donc pour revenir sur la prédiction, on va pouvoir fluidifier le parcours d'achat. Je ne suis toujours pas convaincu que l'adoption va suivre, parce que même si tu as la meilleure techno derrière, ça fonctionne très bien. Est-ce que pour autant les gens vont avoir le réflexe dans leur salle de bain ou dans leur cuisine d'acheter quelque chose? Je ne suis pas certain, mais en tout cas, c'est un très bon pas. C'est quelque chose qui était inespéré de voir que tout le monde s'assoit autour de la table. Donc je prédis j'espère voir des choses en 2020 autour de tout cela, donc de l'e-commerce autour du vocal commerce.
Moi, pour 2020, ce que je prédis, c'est un essor encore plus important des DNVB. On en parle très souvent dans ce podcast. Cette année, on en a beaucoup parlé parce que déjà, les DNVB font parler d'elles, notamment lors du Black Friday. Donc, je rappelle que ce sont les DNVB françaises qui sont à l'origine du mouvement Make Green Friday Again. Voilà, c'était au moment du Black Friday. On avait notamment la DNVB Fago qui avait décidé d'embarquer avec elle pas mal de DNVB françaises autour de ce thème de ça sert à rien d'acheter pendant le Black Friday, faites plutôt d'autres gestes écologiques, donner des vêtements, voilà, toutes ces choses-là. Donc les DNVB françaises, elles sont quand même très précurseurs. Elles annoncent quelque chose qui, je pense, en 2020, va vraiment faire tilt pour les grandes marques qui vont se dire, bon, allez, on va peut-être suivre les mouvements initiés par ces DNVB, peut-être se calmer avec toute cette publicité massive qu'on reçoit et toutes ces promotions qu'on reçoit tout le temps, parce que les DNVB, elles ont un modèle économique qui est complètement différent. Souvent, elles ne suivent pas les soldes, elles ne suivent pas le Black Friday, et elles expliquent pourquoi, en fait. Et elles sont hyper transparentes sur la politique de prix et sur où est-ce qu'elles font produire, pourquoi est-ce qu'elles décident de ne pas faire de soldes. Donc, l'essor des DNVB, je me demande aussi si les marques, les grandes marques, à les regarder comme ça, vont pas se dire, bon, allez, on va en racheter quelques-unes, quoi, ce serait sympa.
Deuxième prédiction, c'est l'apparition, ou en tout cas, on le verra un peu plus, le modèle de l'abonnement qui va arriver chez les retailers. On l'a déjà vu de manière timide l'année dernière. Nike qui a essayé, donc c'est restreint un certain nombre de clients sur un certain modèle, sur une certaine durée. Mais c'est quelque chose, je crois beaucoup à ce modèle de souscription à un abonnement. Dans le B2B, c'est quelque chose qui est complètement commun. Dans le B2C également, sur certains services, de la musique, du média, on en avait déjà parlé. Donc je veux voir et je pense qu'on verra des choses autour de l'e-commerce, autour de tout cela.
Mon autre prédiction pour 2020, c'est sur le social commerce. Enfin, c'est plutôt une interrogation. Je me demande ce que vont faire Pinterest, Instagram et TikTok, qui sont pour moi des plateformes phares pour le e-commerce. Je me demande comment est-ce qu'on va envisager le e-commerce. On sait que Instagram, avec son Instagram Checkout, est déjà bien avancé. On attend que ça arrive en France. En revanche, pour Pinterest et TikTok, c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout pour TikTok, on ne voit pas très bien quel modèle e-commerce il peut y avoir derrière. Et je pense que c'est 2020 ou jamais où TikTok devra faire ses preuves sur le e-commerce. Et je pense aussi que ça va être un gros défi pour les marques, parce que si on va pouvoir directement acheter in-app, notamment sur Instagram, qu'est-ce qui va se passer pour les sites e-commerçants, puisqu'on ne sera plus rebasculé sur les sites marchands, mais tout l'acte d'achat se fera sur la plateforme. Il faudra bien que les solutions e-commerce, les marques, se réinventent, se challengent. Donc je pense que c'est un très gros défi ce qui nous attend sur le social commerce.
Troisième et dernière prédiction pour moi, il fallait que je termine sur de la techno, c'est la 5G. Alors la 5G, ce n'est pas directement lié à l'e-commerce et pourtant je vais faire le lien. Juste pour le mettre en perspective, la 5G, c'est de 10 à 100 fois plus rapide que la 4G, donc en termes de débit. En termes de latence, donc la latence, c'est le moment où tu envoies, tu cliques sur quelque chose et tu commences à avoir la réponse. Sur la 3G, on était à 65 millisecondes, 4G 40, et sur la 5G, on a 4 millisecondes. Donc c'est 10 fois plus rapide en termes de latence et en capacité réseau. Tu sais, quand tu es dans une salle de concert ou un événement, c'est très vite encombré. Bah, dans les salons e-commerce qu'on fait tout le temps, c'est toujours la cata, que ce soit pour avoir Internet. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la 5G va se lancer cette année, ça ne va pas exploser, ça va être l'année de la 5G, ça va être 2021 très certainement, mais on va commencer à voir apparaître la 5G et les retailers vont se préparer à l'arrivée de la 5G au travers de leur site web mobile qui, à mon avis, va être repensé et on va voir de plus en plus de PWA. On va en parler également parce que c'est un sujet qui me tient aussi à cœur, Progressive Web App. C'est l'idée de construire des sites web tout comme on construit des apps, donc avec beaucoup plus de flexibilité et la possibilité de mettre en cache certaines informations et pas de recharger l'entièreté de la page. Donc voilà, plus la 5G qui arrive, ça va conditionner la manière dont on va naviguer et la manière dont les marques vont construire leurs sites.
Et enfin, moi, je terminerai avec Amazon. Je pense qu'Amazon va
parce
vraiment...
Va se casser la gueule, va disparaître.
Ouais, ça y est, c'est la fin, je crois que ça y est.
C'est la prédiction.
Non, pas du tout. Je pense qu'ils vont poursuivre dans leurs innovations et qu'il va y avoir un gros focus sur l'entertainment. On en a déjà parlé ici. Amazon a racheté notamment les droits en partie pour Roland-Garros va se partager les droits pour Roland-Garros avec France Télé. Donc, je pense que Amazon va vraiment prendre un tournant entertainment important, et puis surtout on a l'arrivée à l'automne, on aura les élections américaines, et là je pense qu'Amazon aura une place, notamment sur Amazon News. Peut-être que Amazon News va détrôner alors c'est sur Alexa en fait, Amazon News, tu peux avoir les news depuis Alexa. Ça pourrait pourquoi pas détrôner les requêtes sur Google lorsqu'on tape sur son ordinateur, et pourquoi pas dire Alexa, j'en sais rien, donne-moi les résultats de l'élection, ces choses comme ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire sur les news et l'entertainment.
Eh bien écoute, merci beaucoup d'avoir partagé. Déjà toi et puis surtout nos auditeurs, merci d'avoir partagé avec nous ce moment. On peut retrouver toutes les références comme d'habitude dans les notes de l'émission, et puis on a tous les liens vers les sources des articles qu'on a évoqués.
Si vous avez des sujets que vous souhaitez que nous abordions ou si vous souhaitez participer à nos interviews, nous vous invitons à nous contacter via notre site.
Merci encore pour votre écoute. On laisse pas de pouce bleu. Non, c'est quoi? C'est sur YouTube les pouces bleus?
Oh, je sais pas. Non, il y a même plus.
Je sais pas.
Oh là là, t'as la ramasse.
Bon, on laisse des pouces.
Non, le pouce bleu, c'est Facebook.
Ah ouais, voilà.
Mais maintenant, t'as d'autres, depuis longtemps, tu as d'autres propositions, bon, des petits cœurs, des choses comme
des
ça.
Pouces, des, voilà, des pouces,
non,
des cœurs.
Non, des cœurs sur Insta et sur LinkedIn.
Sur
voilà.
Tous les, sur
cœurs
sur
tout, quoi.
Et puis surtout, partagez cet épisode ou partagez le podcast autour de vous. Laetitia, on se dit la semaine prochaine.
Ouais, la semaine prochaine.
Rendez-vous la semaine prochaine.
Ciao.
Au revoir.